la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Cette semaine, partout en France, on célèbre les droits des femmes. Mais célébrer, est-ce vraiment le mot? Parce qu'au fond, cette semaine existe surtout pour rappeler ce qui manque, tout ce qui manque, tout ce qui ne devrait plus être à rappeler en 2026 et qui pourtant reste à conquérir. On parle d'égalité, mais les violences continuent. On parle de liberté, mais tant de femmes vivent encore sous la contrainte. On parle de représentation, mais surtout sur certains métiers, certains plateaux, certains terrains. Elles sont encore minoritaires, invisibilisées, épuisées. Alors aujourd'hui, dédicace à toutes celles dont on parle trop peu, celles qui travaillent dehors, dans le froid, dans les champs, dans les fermes, celles qui nourrissent le pays, mais qui peinent encore à être reconnues, parce que dans l'agriculture comme ailleurs, les femmes existent. Innovent, dirigent, mais elles doivent encore se battre pour accéder à la terre, pour se faire entendre, pour être prises au sérieux. Et puis, il y a certains d'autres terrains de lutte, les espaces numériques, les plateformes, le gaming, où les femmes et les personnes sexisées doivent faire face au harcèlement, aux clichés, aux doutes permanents des communautés entières qui doivent encore justifier qu'elles ont leur place dans un domaine où certaines voix voudraient les faire taire. Cette semaine des droits des femmes, ce n'est pas un rituel symbolique, c'est un rappel que rien n'est acquis, que l'égalité ne se décrète pas, elle se construit, elle se défend, elle se protège et elle le vit. Bienvenue dans la matinale du 2 mars, voici votre programme. Et ce soir, c'est une interview menée par Charles et Francesca par laquelle on commence ici même en studio avec Aurore Paillard, agricultrice. Ensemble, ils parleront de la place des femmes dans l'agriculture, entre obstacles, réalité de terrain et renouveau du métier. Puis le flash info avec Fabien pour faire le point sur l'actu du jour. Ensuite, la chronique actu avec Vladimir qui parlera d'un sujet ô combien important, les mouvements de lutte portés par les femmes en Iran. On poursuivra avec le Zoom, direction Twitch, un événement entièrement dédié aux droits des personnes sexisées et à la diversité dans le jeu vidéo, avec Daphné Soincon et Marco Parabelle. Et on terminera avec la chronique libre d'Anaïs. On commence tout de suite avec l'interview.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Nous recevons aujourd'hui Aurore Paillard, agricultrice. Voilà, bonsoir et merci d'être avec nous pour mener cet entretien. Francesca et Charles, je vous laisse la parole.
Bonsoir Aurore.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Aurore.
Alors Aurore, je voulais donc évidemment aujourd'hui aborder donc la question de la place des femmes en agriculture qui est devenue un enjeu majeur pour l'avenir du monde agricole. Et effectivement, dans un contexte, comme on le sait, de renouvellement des générations où près d'un agriculteur, sur deux partira à la retraite d'ici 2030, le rôle donc est plus que jamais stratégique et c'est pourquoi il y a un plan national pour justement favoriser la place des femmes en agriculture et qui a été présenté le mois dernier par notre ministre d'Agriculture. Alors, je vais passer pour la première question à Charles.
Merci, Francesca. Effectivement, alors que le gouvernement a récemment présenté un plan national de 41 mesures pour renforcer la place des femmes en agriculture, la question de leur reconnaissance revient au cœur du débat public. Pour en parler, vous l'avez très bien dit, on reçoit Aurore Paillard, agricultrice, par ailleurs membre du conseil d'administration du syndicat Jeunes Agriculteurs. C'est un plaisir. Bonsoir et bienvenue.
Merci. Ah. Bonsoir.
Quelle a été votre première réaction d'entrée de jeu en découvrant ce plan national en faveur des femmes en agriculture?
Alors, première réaction, tout d'abord, moi j'ai participé aux travaux de ce plan depuis près d'un an avec le ministère et notamment sur un axe moi qui me touche particulièrement étant encore jeune installée, enfin encore jeune agricultrice, c'est la partie installation, transmission pour les femmes, les jeunes femmes et les moins jeunes d'ailleurs, pour favoriser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le renouvellement des générations qui s'accélère, parce que demain, on va passer, d'ici 2030, on passera à moitié moins d'agriculteurs qu'aujourd'hui, si les choses ne s'accélèrent pas au niveau du renouvellement agricole. Donc effectivement, ce plan, première réaction, plutôt une bonne nouvelle dans l'ensemble des six axes après à voir sur le terrain et dans la continuité là, de cette année 2026, que toutes les propositions soient effectivement mises en action.
Oui. Justement, est-ce que selon vous, ce plan constitue déjà une avancée importante, déjà en termes de valorisation de la place des femmes dans l'agriculture ?
Oui, effectivement, parce que jusqu'à présent, aucun document n'avait été effectué dans ce sens, aucun plan n'avait été effectué dans ce sens. Pour rendre vraiment visible le métier d'agricultrice en tant que tel, métier d'ailleurs qui est encore beaucoup trop peu connu, à mon sens, encore pour avoir échangé aujourd'hui sur ce terme, on voit encore trop fréquemment des hommes dans ce métier. Et là, c'est vraiment pour mettre en lumière que c'est un métier autant féminin que masculin. Et que tout le monde, toute femme a sa place dans ce domaine.
Justement, vous êtes agricultrice déjà. Quelles sont vos difficultés, la plus grande d'ailleurs, au quotidien ?
La plus grande au quotidien, c'est de vraiment être connue en tant que chef d'entreprise en son nom et sans être répertoriée en parallèle d'un mari ou d'un frère ou d'un père. C'est vraiment d'avoir une reconnaissance totale de notre statut d'agricultrice, surtout quand on est installé comme moi, seul sur son exploitation.
Justement, le plan met fortement l'accent sur la communication, notamment les portraits, les logos des femmes. Est-ce que pour vous, cela suffit réellement pour changer les choses ?
Ce sera un tout pour faire changer les choses. Effectivement, ça pourra mettre en lumière quand même un petit peu la reconnaissance de notre travail. Mais sincèrement, ce sera un global. Ce sera à tout le monde d'y mettre du sien et de pouvoir faire cette reconnaissance nationalement, finalement, pour que l'on puisse s'y retrouver dans quelques années.
Alors, vous dites avoir participé à l'élaboration du plan, donc il y avait quand même un peu plus de 3000 personnes sondées et qui ont donné leur réponse. Est-ce que vous avez une estimation de à peu près combien d'agricultrices ont été concertées par rapport à ça ? Puisque ce qui en est ressorti, c'est que il n'y a pas eu beaucoup justement de population de l'agriculture qui a été sondée.
De retour, alors après c'était un appel national, donc qui voulait répondre, répondait effectivement.
Donc il était composé de toute population finalement.
Et oui, exactement. Là du coup on pouvait, enfin c'était quand même visé dans le milieu agricole, le questionnaire a été envoyé que ce soit à des organismes professionnels agricoles, des syndicats, des chambres d'agriculture et forcément descendu aux agriculteurs. Mais par contre, tout le monde pouvait effectivement donner son retour sur cette concertation.
Dont des citoyens qui ne connaissent pas, enfin, on sait encore que le secteur n'est pas encore très très enfin, on va dire, connu. Donc il y a aussi des citoyens qui ont répondu ne connaissant pas vraiment le secteur au final aussi.
Je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que j'avoue ne pas avoir cette notion exactement là. J'avoue que vous me mettez.
Aucun problème. Justement, sur le axe 1, donc, ce qui est plutôt sur la visibilité des agricultrices, est-ce que vous pensez que il est en axe 1, donc si on regarde bien de manière, on va dire, objective, en axe 1, on met ce qui est plus important. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le plus important le fait de faire des portraits finalement ? Est-ce que c'est le plus important
pour
dans
vous, ces l'axe 1, ouais. Alors l'axe 1, enfin ils ont été ciblés comme ça, c'est pour les répertorier. Je ne pense pas que ce soit le premier, le plus important, mais c'est déjà un premier pas pour permettre de montrer un maximum au grand public que c'est un métier aussi féminin. La femme est souvent quand même invisibilisée dans ce métier. C'est toujours, elle travaille beaucoup. Mais elle est rarement mise forcément, elle est rarement mise en avant et sur toutes filières confondues, hein, j'entends. Pas que sur certaines, mais vraiment sur toutes les filières. Après, des portraits, ce sera bien pour faire de la communication. Mais derrière, tous les autres axes ont leur intérêt. Et pour moi, c'est vraiment le global de ce plan qui aura un intérêt.
Et justement, puisque vous parlez d'éducation, je pense qu'il fait bien de préciser que dès la rentrée 2026, des actions portant sur l'égalité seront menées dans les établissements scolaires pour davantage éduquer la jeune fille et le public en général sur l'agriculture et surtout la place de la femme dans cet univers-là. Est-ce que selon vous, vous pensez que les inégalités que vivent les agricultrices en ce moment révèlent-elles un manque d'informations ?
En partie, oui. Pour avoir fait des études dans le milieu agricole, on ne nous encourage pas forcément à aller à continuer en fait dans des métiers agricoles. Et des fois même dans des classes où c'est assez masculin, on peut des fois même se sentir mis de côté. Je ne dis pas que c'est une généralité parce que je pense qu'il y a déjà des écoles où cette sensibilisation était faite, où la mixité se faisait naturellement. Après, voilà, c'est juste aussi pour aider, encourager les jeunes femmes qui se lancent dans ces écoles, dans un cursus où ça semble leur plaire, et bien les maintenir. Et effectivement, dès cette rentrée 2026, surtout le personnel éducatif qui va être sensibilisé au genre et à bien intégrer que toute personne arrivant dans un cursus scolaire soit bien intégrée et soit au même pied d'égalité pour se former et pour la suite.
L'absence des objectifs chiffrés pour l'installation des femmes vous paraît-elle problématique ? Parce que je précise encore, on sort récemment du Salon international de l'agriculture. C'était aussi une plateforme d'éducation et surtout avec ce plan, on devrait normalement évoluer en termes de sensibilisation. Mais là, ce plan, il est quasi vide. Là, il n'y a pas de chiffres. Est-ce que pour vous, c'est crédible ?
Par rapport à... Excusez-moi, je...
Par rapport au plan, est-ce que l'absence des objectifs chiffrés pour l'installation des femmes paraît-il problématique ?
Oui. Vers quel objectif ils souhaitent aller en fait en termes de
exactement. De on est à 30 aujourd'hui. Alors, combien on veut être d'ici 3 à 5
exactement.
Pardon.
On est à
29.
On est à 26. Ouais. Alors là, moi, j'avais 26. J'avoue que peut-être qu'ils ont gonflé. Alors 29 serait plus vers le salariat. On est à plutôt 26 en installé, 35 quasiment en salarié. Femmes. Mais du coup, effectivement, il n'y a pas de visée précise. Alors, c'est pas forcément une volonté de leur part, mais par contre, dans le plan, il y a des données précises pour faire apparaître via la MSA, notamment à la Caisse nationale de la MSA, faire apparaître d'ici quelques années, d'ici 2 ou 3 ans de mémoire, ce que j'ai sous les yeux, pour voir quelle est l'évolution du coup chiffrée de cette part d'installation. Ils attendent déjà quelques années pour avoir un retour chiffré, voir si ces mises en place ont un impact sur l'installation féminine.
Alors, je voulais aussi vous demander, par rapport dans le plan, on évoque aussi les difficultés d'installation. Alors, je sais que la transmission, c'est déjà entre jusqu'à 3 ans, il me semble, pour transmettre une exploitation. Et c'est quoi la différence, que ce soit un agriculteur ou une agricultrice, finalement, sur un plan de transmission ?
Alors, au niveau de la transmission, alors je ne sais pas, sur les 3 ans, je pense que c'est par rapport à notamment des successions, mais par exemple sur un cédant, normalement il doit notifier qu'il va céder son exploitation au moins 5 ans avant sa retraite pour anticiper justement la reprise, que ça se passe dans de bonnes conditions. Et du coup, il y a tout le volet sensibilisation des cédants au genre, du coup, à des installations féminines. Pour aussi mettre en avant que les femmes sont capables de reprendre l'exploitation. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a encore ce côté-là où on a plus envie de transmettre à un jeune homme ou au genre masculin, malheureusement, malgré que les femmes savent faire toutes les tâches nécessaires à la ferme qu'on leur demande et pour entreprendre dans l'agriculture.
Merci Aurore, je vous propose à tous une petite pause musicale, puis on revient tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. On écoute Les Tomates de Dumont Tanière. Allez, c'est parti.
I know you're gonna dig this.
Reggae!
Original track from Montero.
C'est un pauvre garçon qui s'appelle Edmond. Il est au décoron du côté de Fouquet. Il n'avoue assez, après ses journées, d'aller travailler dans le jardin de Saint-Père. Pour s'en échapper, il se dit je vais me marier. Ça a été vite fait, il est au pavillon. Elle est au bélote, un petit peu lolote. Mais pour la popote, elle n'y connaît sans rien.
Bravo.
Il mange des tomates, des tomates, des tomates. Les pauvres garçons, ils savent bien qui est au marqué par le destin. Et ils se disent oh, pour se faire une raison, ça aura pu être la saison des melons.
Arrivé, il a tout plaqué, il s'en est allé pour trouver le bonheur. Chez ta Carpentras, qu'un jour il trouva quelque chose qui est au pas, c'est un métier de mineur. Dans ces pays-là, un réclame des bras, faut dire que je sais pas le boulot qui les tue. Du matin au soir, comme un vrai bagnard, des taux sur le trimard, il n'en pouvait plus. Des tomates, des tomates. Les pauvres garçons, ils savent bien qui est au marqué par le destin. Et ils se disent oh, pour se faire une raison, ça aurait pu être la saison des melons.
Mitchell.
Il avoue ma foi, un bio filet de voix. Alors chez Pourchat qu'il voulut canter. Il a pris des canchons sur son accordéon. Les micro-sillons, chalfeuseau rêvé. Il veille au déjà, Paris l'Olympia. En plâchant sur le tas, Johnny a l'idée. Mais le jour qu'il canta dans le vieux cinéma, alors il arriva ce qu'il devait arriver.
Des tomates, des tomates. Les pauvres garçons, ils savent bien qui est au marqué par le destin. Et ils se disent oh, pour se faire une raison, ça aurait pu être la saison des melons.
Toutes les misères qu'il y a eu sur terre, y a pas pu s'y faire, y a pas résisté. Et chez ta Fouquière, tout près de saint grand-père, dans le vieux cimetière qui est tout enterré. Chez par amitié, Claude Jourin a semé des belles chottes pincées, il les aime autant qu'un ternier retourné. Deux, trois mois après, on est tous restés comme deux ronds de flanc.
Des tomates, des tomates. Les pauvres garçons, ils savent bien qui est au marqué par le destin. Et ils se disent oh, pour se faire une raison, ça aurait pu être la saison des melons.
C'était Les Tomates de Dumont Tanière. Et nous sommes toujours avec Aurore Paillard. Francesca Charles, je vous laisse la parole.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Alors, oui.
C'était Les Tomates de Dumont tanière. Et nous sommes toujours avec Aurore Paillard, Francesca Charles. Je vous laisse la parole.
Alors Aurore, nous sommes de retour. Tout à l'heure, on parlait de la transmission, on parle aussi des difficultés d'installation et justement dans les freins qui ont été évoqués par justement le secteur, la profession, il y a des points qui n'ont pas été forcément évoqués, notamment sur la facilité justement de l'installation, donc l'accès au foncier. Tout à l'heure, Charles parlait des objectifs fixés, effectivement, mais l'évolution réglementaire par rapport au statut du coup des femmes qui reprennent, mais aussi on parle des inégalités par rapport au revenu et à la retraite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces sujets?
Alors déjà par rapport aux inégalités de revenus, alors par contre en tant que chef d'exploitation, on verse son propre salaire. Donc si déjà on est son chef d'exploitation, son propre patron, ça veut dire que c'est nous qui choisissons notre... Alors, suivant les revenus de l'exploitation, hein, bien sûr, mais c'est quand même nous qui choisissons ce que nous nous versons, en théorie. Donc, à deux associés égaux, en théorie, les associés ont le même revenu. En termes du coup, deuxième point, c'était sur la partie travail, c'est ça?
Oui, alors il y a aussi pour faciliter l'accès, la profession évoquait l'accès au foncier. Une facilité, une aide certainement.
Alors dedans, oui, effectivement, ce n'était pas forcément très développé sur le plan. Aujourd'hui, le foncier, on l'acquiert suivant des demandes, suivant des conseils départementaux notamment. Donc vraiment, aujourd'hui, il y aura peut-être des choses à mettre en place, par exemple, anonymiser des projets sur ces commissions-là pour pouvoir aider aussi que les femmes puissent également reprendre de la même façon que des hommes sans avoir cette référence à si on fait reprendre une femme ou un homme. Ça peut être une piste, voilà, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, on a les noms des candidats qui prétendent au foncier. Et ça permettra aussi d'être plus, peut-être, plus fluide dans les demandes et dans les accords de cession de foncier.
Vous faites bien de souligner ce problème de foncier. J'aimerais bien savoir, l'accent mis sur l'entrepreneuriat féminin vous paraît-il pertinent dans un contexte où les difficultés sont d'abord structurelles?
Au niveau des structures agricoles, vous entendez? Au niveau des fermes à reprendre?
Oui, parce qu'on n'est pas du tout sur l'entrepreneuriat classique finalement.
Oui. Alors, pour personnellement, pour entreprendre sur deux volets différents, agricoles et hors agricoles, j'avoue que ça n'a pas la même ambition par rapport au travail. Mais après, sur le fond, ça reste quand même de l'entrepreneuriat dans le sens où l'exploitation, une entreprise agricole, on va la façonner aussi à son image. Mmh. C'est pour ça que j'aime aussi, moi, ce domaine et ce métier. Parce qu'on peut tout au long de sa vie, en fait, modifier sa structure et modifier son entreprise selon sa période de vie. Si on démarre, si on est en création de sa famille, si on est plutôt en fin d'activité, à vouloir faire des choses un petit peu plus simplifiées. C'est ce cadre-là en fait, que je trouve intéressant au niveau de l'agricole. C'est que même si on reprend une exploitation telle qu'elle, suite à un cédant, par exemple que ce soit du bovin, que ce soit du maraîchage, peu importe la structure, on va pouvoir l'emmener suivant nos attentes et nos conditions aussi, parce que tout le monde n'est pas capable forcément d'avoir un élevage bovin ou de vouloir aller sur un tracteur pour travailler des champs. Et c'est ça, c'est cette appétence-là, je trouve, qui est intéressante, qui a la diversité en fait de l'agriculture, qui peut plaire à tout un chacun.
L'agriculture, c'est un métier de passion, comme on dit toujours. Alors votre histoire avec l'agriculture y est pour quelque chose, j'imagine, qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes agricultrice?
Moi, personnellement, à 18 ans, vous m'auriez dit que je serais agricultrice aujourd'hui. Je pense que j'aurais beaucoup rigolé.
Ah oui?
Parce que j'avais pas prévu ce cadre-là, du moins pas, peut-être pas aussi rapidement ou peut-être plus tardivement. Et c'est à mes 23 ans, au moment où j'ai perdu mon papa en 2013. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit, non, mais en fait, Enfin, on est quand même, on reste attaché à sa terre, on reste attaché à ce qu'on nous a inculqué étant enfant. Et même si je ne m'étais pas destinée à être agricultrice à la base, j'avais quand même déjà quelques notions depuis quelques années avant ça. Et ça m'a permis de mettre un peu le pied à l'étrier un peu plus rapidement et de me former correctement et de pouvoir entreprendre, de reprendre l'entreprise bah, du coup, qui était familiale, effectivement, mais que j'ai repris seule. Au bout de 3 ans, j'ai réussi à reprendre seule cette entreprise. Donc, effectivement, à la base... une passion, enfin forcément c'était un quotidien que j'ai vu étant enfant, mais du coup ça devient plus une passion après pour faire perdurer aussi un outil qui nourrit quand même qui nourrit en grande partie la population autour de moi.
C'est pour ça, pour rebondir là-dessus, c'est que je me dis c'est un métier assez rare qu'on n'ait pas d'antécédents, que ce soit des bagages familiaux ou en tout cas une passion pour ce métier, pour y rentrer. Donc quand on veut ouvrir ce secteur aux femmes, est-ce que celles qui n'ont pas justement cet héritage, que ce soit de loin ou de près, peuvent intégrer, d'après vous ?
Alors oui, moi pour moi je pense que oui, parce que d'autant quand on est extérieur, on est beaucoup plus curieux. Moi personnellement, je suis dans les grandes cultures et par exemple l'élevage, moi m'intéresse quand même. Enfin, j'ai la curiosité d'aller poser des questions, d'aller me renseigner sur les choses. Le fait qu'on soit hors cadre, on appelle ça les nimas, les non issus du milieu agricole dans notre jargon, mais clairement aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus intéressés aussi par les filières et on a besoin d'eux de toute façon pour reprendre parce qu'il y a de moins en moins d'enfants d'agriculteurs qui se lancent à reprendre, soit parce que les parents ne les poussent pas forcément et leur souhaitent de faire aussi d'autres choses, pas parce que l'agriculture n'est pas un milieu favorable, mais déjà pour voir d'autres choses, ne serait-ce qu'avant de s'installer. Et du coup, les non-issus de ce milieu agricole sont, pour moi, je trouve quand même qu'ils sont de plus en plus visibles et de plus en plus bien accueillis quand même, car de plus en plus nombreux à faire des demandes d'installation. Et on en parlait tout à l'heure par rapport au CED, aussi, c'est une sensibilisation justement pour montrer qu'il y a des jeunes qui ont envie d'entreprendre encore en agriculture aujourd'hui.
L'un des problèmes qui est bien évidemment détourne ou alors change la vie des personnes qui veulent entreprendre dans l'agriculture, ce sont des conditions de travail. C'est vrai que l'axe 5 du plan proposé parle de l'amélioration des conditions de travail, mais pour vous en tant que agricultrice, avec, du haut de votre expérience, quelles seraient selon vous les mesures concrètes que vous pourrez proposer pour améliorer les conditions de travail ?
Alors, en conditions de travail, effectivement, enfin, dans l'axe 5, on parle par exemple du statut de collaborateur. Et c'est un statut qui a longtemps perduré pour pouvoir avoir les femmes en gros sur les exploitations, mais qui n'était pas du tout protecteur dans le sens où un conjoint collaborateur aujourd'hui ne peut pas prétendre à autant de droits, par exemple à la retraite au moment de la retraite, que quelqu'un qui est salarié ou qui est associé. Et aujourd'hui, pour moi, dans cet axe-là, c'est vraiment quelque chose d'important qui a été énoncé. On ne peut pas rester conjoint collaborateur toute sa vie aujourd'hui, toute sa carrière. Pour pouvoir avoir un statut, pour avoir des revenus décents aussi tout au long de sa vie, forcément, et avoir une place et être représentée en tant qu'agricultrice. Pour moi, voilà, c'est la plus importante. Et au-delà de tout ce qui est matériel aussi, adaptation du matériel, forcément, on a beau se dire qu'on est forte, voilà, oui, on est forte, mais il y a des hommes aussi qui se disent forts, mais on se fait mal aussi, on peut se faire mal au quotidien parce que les machines ne sont pas adaptées. Voilà, il y a ce volet-là aussi qui est nécessaire.
C'est vrai, vous anticipez ma prochaine question. Ça, c'est clair. On devait parler effectivement de l'ergonomie, du matériel, de la maternité, de la conciliation de vie professionnelle et ou personnelle. Donc, peut-être pour beaucoup, ça constitue peut-être des causes des inégalités ou cela semble être les conséquences.
Concernant, là, vous parliez, voilà, ergonomie, c'est une chose, c'est tout ce qui concernera le matériel.
Oui, le matériel.
On sait qu'on a des constructeurs d'agroéquipements, notamment, qui sont sensibilisés déjà à ça et qui sont prêts à voir ce qu'on peut proposer, faire des espaces tests, par exemple, avec du matériel, un tel matériel donné, pour voir, suivant les gabarits, parce que souvent, c'est comme les voitures, hein, c'est des tracteurs sont normés sur un certain gabarit bien défini, qui ne s'adapte pas forcément à toutes les morphologies. Et en parallèle, il y a la partie, effectivement, vie privée, maternité, où des fois ça peut coincer une jeune qui s'installe, alors soit freiner à l'installation en se disant mais non, en fait je vais pas m'y retrouver, je vais pas pouvoir fonder ma famille parce que agricultrice ça va être trop prenant, ce sera des amplitudes horaires trop larges, il y a pas forcément derrière de choses adaptées pour pouvoir faire garder ses enfants. Et c'est le genre de frein qui est énoncé et qui doit être amélioré aussi dans tous les territoires ruraux pour pouvoir permettre aux jeunes femmes et d'entreprendre en agriculture et de pouvoir aussi penser à sa vie personnelle et à sa vie familiale et ne pas faire de faire le choix de l'un ou de l'autre.
Merci beaucoup Aurore, on arrive à la fin de cette interview, on n'a pas cité l'axe 6 mais qui est aussi important, c'est la place justement des femmes dans les instances agricoles. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, merci pour vos réponses.
Merci Aurore pour tous ces éclairages, c'était passionnant. Merci Charles, merci Francesca. Tout de suite, le point sur l'actualité avec Fabien.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour, et on commence avec la France. Jean-Luc Mélenchon a ciblé les médias traditionnels lors d'un meeting à Lyon jeudi 26 février. Le triple candidat à la présidentielle a à peine évoqué la campagne des municipales et installé tout de suite un face-à-face tendu avec les médias en faisant huer certains titres comme Libération. France toujours, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'île Longue où la France abrite ses 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la force océanique stratégique. Le chef de l'État a annoncé vouloir augmenter le nombre de têtes nucléaires détenues par la France. La France discute avec 8 pays européens pour fournir sa dissuasion nucléaire. Angleterre. Au Royaume-Uni, secoué par l'affaire Epstein, la famille royale n'a plus la cote après l'arrestation de l'ancien prince Andrew, jeudi 19 février. L'événement est inédit pour la monarchie britannique. Le frère du roi Charles III, placé sous contrôle judiciaire, est accusé d'avoir fourni des informations confidentielles aux pédocriminels dans l'exercice de ses fonctions officielles. Belgique. Un pétrolier de la flotte fantôme russe a été arraisonné en mer du Nord par la Belgique avec l'aide de la France. Intercepté dimanche, le navire a été escorté vers le port de Zeebruges où il sera saisi. Et enfin, pour terminer, culture. Lors de la cérémonie des Césars, Jim Carrey a reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, un prix qu'il a accueilli dans un discours intégralement en français. Après une longue standing ovation, Jim Carrey a remercié toutes les personnes qui ont partagé sa carrière, ainsi que sa famille.
Merci Fabien pour ce tour d'horizon. Allez, deuxième pause musicale parce que vous le valez bien. On écoute le potager de ma grand-mère de Potager. Allez.
Si tu voyais aujourd'hui mon potager, tu n'y verrais que des herbes fanées. Si tu savais mon potager.
des patates, des carottes et des champignons, des courgettes et des blettes et plein de pâquerettes, des oignons et de l'ail, de l'oseille, de la bourrache, des vers de terre et des courgettes et des radis bien rouges, des sapins, des sécateurs et des gants, des tournesols, des arrosoirs, tondeuses, pêchers, mûriers, framboisiers, noyers. Le potager de ma grand-mère était toujours dans mon cœur.
C'était le potager de ma grand-mère du groupe Potager. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et j'espère que ce morceau vous aura redonné la pêche. Il est 19h39, tout de suite la chronique actu de Vladimir.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de l'Iran qui occupe notre actualité depuis le début de cette année, entre les manifestations massives auxquelles nous avons assisté en janvier, réprimées dans un bain de sang, et aujourd'hui par la guerre déclarée par les États-Unis et Israël contre le régime des Mollahs. Mais en cette semaine marquée par la Journée internationale des droits des femmes, j'aimerais apporter un coup de projecteur sur les femmes iraniennes dont les combats féministes ont été depuis toujours le fer de lance des luttes contre le régime. La République islamique, instaurée après la révolution de 1979 en Iran, est immédiatement marquée par une révolte féministe. Le 8 mars 1979, des dizaines de milliers de femmes manifestent contre une loi obligeant le port du voile. Leur lutte mènera à un report du projet de loi qui ne sera instauré que quelques années plus tard. En septembre 2022, souvenez-vous, à la suite de la mort de Mahsa Amini, tuée par la police, une autre série de manifestations embrase tout le pays au son du slogan scandé « Femme, vie, liberté ». À cette occasion, des manifestantes redécouvrent les archives des manifestations de 79. Elles s'aperçoivent qu'elles appartiennent à une longue continuité de résistance face aux violences patriarcales du régime des Mollahs. Et en 2025, les femmes sont toujours en tête de cortège des manifestations. Alors, comment expliquer l'omniprésence des iraniennes dans les mobilisations contre le régime ? Selon Shora Marakemi, anthropologue et spécialiste des mouvements de résistance iraniens, il existerait une vraie culture féministe en Iran. Il existe même plusieurs féminismes, d'après elle, qui ne sont pas un combat occidental calqué sur la société iranienne, mais bien une invention propre aux réalités du peuple iranien. C'est le mouvement le plus vivace dans la société iranienne depuis le début des années 2000. On pourrait l'expliquer d'abord par la pensée politique qui dit que la résistance part toujours du point de pression du pouvoir. Or, le pouvoir iranien fonde toute sa force sur la symétrie entre les hommes et les femmes. Ceci s'exprime dans la réalité quotidienne. Une femme iranienne est considérée comme valant la moitié d'un homme. Et en moyenne, une femme meurt tous les deux jours sous les coups d'un homme en Iran. Mais il existe aussi un grand décalage en Iran entre la réalité que vivent les femmes. Par exemple, elles choisissent leur mari, elles suivent des études supérieures, elles ont des travaux. Et les injonctions traditionnalistes du pouvoir. Et de cette contradiction naît une friction inévitable, et les femmes finissent par ne plus obéir. Elles structurent aussi leur combat, et on constate une grande capillarité dans leur action, qui se diffuse dans tous les territoires, pas seulement dans les grandes villes. Les mouvements féministes ont été durement réprimés sous la présidence de Mahmoud Ahmadinejad et les femmes se sont alors investies dans d'autres mouvements, mais avec un apprentissage structuré par les luttes féministes. C'est sans doute ce qui explique le fait que la bataille des femmes s'inscrit comme une figure de proue de toutes les mobilisations politiques en Iran. Et de par la nature même du pouvoir, les Iraniennes ne peuvent qu'aspirer à un changement profond de régime. Elles ne s'en contenteront jamais seulement de réformes, mais souhaitent une profonde révolution. Alors, en ces jours de grande instabilité en Iran, marqués par une possible chute du régime, tendons l'oreille et écoutons ce que les Iraniennes disent, scandent et revendiquent.
Merci Vladimir pour cette chronique poignante, c'est ce qu'on peut en tirer. Voilà.
Place le Zoom dans la matinale de 19h.
Ce soir on parle Twitch, militantisme et jeux vidéo. Nous sommes avec Daphné, Marco, Abel qui sont organisateurs d'un événement dédié aux droits des personnes sexisées et à la diversité. Abel, tu mènes cette interview, à toi.
Bonsoir, bonsoir Radio Campus, bonsoir Daphné, bonsoir Marco, merci beaucoup d'être ici. Vous êtes donc tous les deux streamers sur la plateforme Twitch. Daphné, vous êtes membre de différents collectifs et notamment une chambre à soi qui participe à l'organisation du festival dont on va parler après. Marco, vous êtes membre du festival Gamer, également organisateur de ce festival. Donc pour rappel, Twitch c'est une plateforme de diffusion de streaming ouverte à tous et fonctionnant au don et principalement orientée sur le jeu vidéo. Et ça tombe bien parce qu'on va en parler. Et on va surtout parler du coup de cette Adelph Game Festival qui a lieu ce week-end sur Twitch. Tout d'abord, je vais peut-être demander de vous présenter à tour de rôle. Daphné, je vous invite à commencer.
Alors oui, donc moi c'est Daphné, donc je suis graphiste, illustratrice et je crée du contenu sur Twitch depuis 2017. Voilà, je fais du contenu jeux vidéo, karaoké, react, je partage mes créations graphiques aussi en live avec les viewers et tout ça. Voilà.
Eh ben, bienvenue. Marco, je peux vous demander de vous présenter ?
Oui, bien sûr. Bonsoir, je suis Marco, du coup pronom il, et je suis streamer également. J'ai commencé avec Afro Gameuse, qui est un autre collectif, et du coup je stream très très peu. Mais vendredi, j'ai repris la manette pour Resident Evil Requiem.
Oh, c'est un très beau jeu, très bon choix. Et vous parliez d'Afro Gameuse, qui est aussi un collectif dont vous faites partie, Daphné.
Oui, tout à fait.
On précise, qui n'est pas organisateur cette année sur l'Adelph. Mais par contre, Gamer est un collectif qui participe à l'organisation. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Oui. Alors, Gamer, qui est présente depuis 2017, est une association loi 1901. Qui a pour but de lutter pour plus de mixité, de diversité, d'accessibilité et d'inclusion dans les domaines du jeu vidéo, de l'e-sport et de la création de contenu. Chez Gamer, on croit en la convergence des luttes, l'intersectionnalité et l'adelphité. On assume totalement notre côté politique et on se refuse le féminisme de surface.
Et c'est bien dit. Et surtout, du coup, on a envie de savoir quel type d'action en fait, fait une association comme la vôtre. Parce qu'on sait que vous organisez des festivals, mais comment ça s'axe du coup, une association de gamers, gameuses ?
Alors déjà, c'est une association qui est en ligne, donc avec un serveur Discord notamment, et une chaîne Twitch, Gamer TV, sur Twitch. Donc ça se passe aussi à travers des émissions qu'on essaie de mettre en avant, comme par exemple Checkmates, sur Gamer qui permettent à une personne mentor de jouer avec une personne mentorée sur tout plein type de jeux. La dernière émission, on l'a fait sur Apex, par exemple. Et on a aussi des événements e-sport, pas mal de tournois, notamment sur League of Legends ou Apex. Et aussi une communauté qui est très soudée, qui est très présente et qui nous sort de temps en temps des articles de presse hyper intéressants, dont le dernier tuto de Lou, par exemple, sur créer un personnage non-binaire dans Baldur's Gate 3.
Ah, et c'est possible ?
Tout à fait.
D'accord, et c'est un jeu que je conseille d'ailleurs à tout le monde. Et alors du coup, vous parliez d'Adelphité juste avant. Adelphité, c'est un mot quand même qui n'est pas si connu que ça, parce que notre devise, c'est égalité... oh là là, j'ai un échec. Liberté, égalité, fraternité. Et fraternité, c'est un mot qui est quand même contesté. Adelphité pourrait le remplacer. C'est aussi le nom de votre festival. Est-ce que je peux vous laisser expliquer le mot Adelphité ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est un terme justement qui est épicène et en fait qui est épicène dans le sens où c'est neutre, c'est-à-dire que ça définit une fratrie ou une sororité, c'est ça, mais de façon neutre et inclusive en fait pour tous les genres qui peuvent exister, voilà, en gros.
Et donc, ça serait un bon pont pour parler du festival maintenant, la Delft Game Festival, Gladelm Game Fest, même si je ne me trompe pas. Est-ce que Marco, peut-être, tu peux nous le présenter ?
Voilà, oui, je peux.
Surprise.
Effectivement, la Delft Game Fest, c'est la troisième édition cette année. Donc, ce week-end, comme vous l'avez dit, samedi et dimanche. Le titre de cette année, c'est de promouvoir les droits des personnes sexisées et la diversité dans le jeu vidéo. Ça rejoint aussi le principe d'Adelphité. Donc, comme disait Daphné, fraternité, c'est très lié aux frères, donc masculin. Sororité, très lié aux sœurs, donc féminin. Adelph, c'est le mot qui vient mettre tout le monde d'accord. Et c'est aussi pour ça que cette année, on a voulu se focaliser sur les personnes sexisées, par opposition, pas par opposition, mais plutôt que de parler des femmes dans le jeu vidéo. Parce que... Parce que en fait, ça touche pas mal des personnes, notamment dans l'organisation. Moi-même, je suis trans. Effectivement, les femmes, je connais parce que je suis perçue comme telle. Mais ça restait très compliqué pour moi, qui ne veut pas être perçue comme une femme, de me dire « je fais quelque chose pour défendre les droits des femmes et mes droits dans tout ça ».
Donc c'est un festival qui se veut le plus inclusif possible.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et justement, le principe de l'événement, c'est de permettre à différentes associations qui font leurs actions, en fait, chacune dans leur coin, on va dire, tout au long de l'année, de se rejoindre, en fait, pour un événement commun où on joint nos forces, où on joint nos luttes pour pouvoir parler justement des différentes luttes qui peuvent être liées au 8 mars. Parce que c'est vrai que le 8 mars est voilà, souvent associé juste aux femmes, mais il faut, nous, notre volonté, c'est justement d'inclure les différentes luttes qui sont intersectionnelles. Comme par exemple, voilà, une femme a subi du sexisme, mais une femme noire, par exemple, subit un sexisme différent, ce qu'on appelle la misogynie noire. Et voilà, donc nous, on essaie vraiment d'inclure dans nos émissions et dans ce qu'on va proposer comme contenu, justement, des luttes différentes pour les personnes neuroatypiques en situation de handicap qui ont des genres et des origines différentes et du coup marginalisées qui subissent souvent la discrimination et tout ça. Voilà.
Et alors comment on organise un festival du coup en ligne, entièrement en ligne ? C'est quoi le contenu que vous allez proposer pendant le festival ?
Bien, majoritairement du contenu du coup lié justement là à nos luttes comme je viens d'expliquer, mais lié justement au secteur du jeu vidéo, donc que ce soit le secteur du jeu vidéo, c'est-à-dire les studios qui développent les jeux, que ce soit dans l'univers de l'e-sport ou du streaming, et justement mettre en avant tous les comment dire plusieurs personnes voilà qui créent du contenu ou qui travaillent dans ce secteur, et également connaître leurs luttes au quotidien, etc. Comme par exemple cette année on va avoir une émission par exemple sur les personnes intersexes du coup, et également aussi comment représenter la diversité dans les jeux vidéo, et également savoir aussi comment l'intelligence artificielle peut du coup avoir un impact sur les personnes qui créent des jeux vidéo, qui créent du contenu, etc. Voilà.
Donc ça va être beaucoup d'échanges, de débats, de tables rondes.
Ça, tout à fait, voilà, des tables rondes, des conférences, voilà.
Des quiz.
Oui.
Et vous aurez, il y aura du gaming pendant le festival ?
Oui, oui, tout à fait. Il y aura aussi donc, l'une des émissions sur un jeu qui parle justement des violences gynécologiques. Donc, ça sera, il y aura une partie gameplay, aussi une partie interview des personnes qui ont créé le jeu, par exemple. Voilà.
Et alors, ce festival, d'où elle vient cette initiative ? D'où ça part ?
Alors, ça part de... en fait, du coup, l'association Women in Games France, du coup, organisait en fait chaque année, depuis 2017, justement, des émissions Twitch, du coup, à l'occasion du 8 mars. Et du coup, en 2024, du coup, a eu le souhait, justement, de changer ça et de plus proposer cet événement en accueillant plusieurs associations, justement pour pouvoir participer et donc du coup créer du coup est née la Delft Game Fest et voilà, je crois que c'est la origin story de l'événement en gros.
Donc c'est un événement qui a tendance à devenir plus tentaculaire que ce qu'il était avant. Donc vous avez, est-ce que vous arrivez à avoir une évolution assez imposante ? Est-ce qu'il y a en plus une facilité sur Twitch quand même à mesurer le passage, les gens qui sont impliqués dedans ?
Du coup, je vais répondre, hein, du coup. oui, la première édition, et du coup, a eu beaucoup, beaucoup de succès. Il y en a eu un peu moins sur la deuxième édition. Mais voilà, les personnes étaient toujours là et toujours, comment dire, les personnes qui ont participé à l'événement, qui ont participé à l'organisation, qui sont venues sur le chat, on apprécie énormément l'événement. En fait, vraiment, on en a besoin de ce genre d'initiative voilà, sur Twitch.
Et du coup, vos associations, elles participent en tant qu'organisateurs, mais est-ce qu'elles proposent, il va y avoir un live Twitch de Une Chambre à Soin, un live Twitch de gamers ?
Oui, tout à fait, c'est le principe. Du coup, toutes les associations qui participent présentent leur émission sur leur chaîne ou font la régie modération d'une autre chaîne pour avoir vraiment le partage entre les communautés de toutes les associations.
Et Gamer, qu'est-ce que vous avez proposé du coup comme émission cette année ?
Alors, on en a un peu parlé. Notre émission, c'est samedi à 16h sur Gamer TV et c'est donc l'intersexuation, joie intersexe et se réapproprier son vécu. Donc c'est une... C'est format conférence-témoignage avec une personne de Amnesty France.
Et on pourra vous voir dessus du coup, Marco.
Alors moi non, je n'y serai pas.
D'accord.
Mais pour le pré-show samedi à 9h, si vous voulez, vous pourrez me voir sur Twitch.
Et Daphné, où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup est-ce qu'on va pouvoir vous voir pendant le festival ?
Pas du tout cette année. Moi, je serai vraiment backstage pour tout coordonner. Et sinon, la dernière émission, on va faire un quiz justement avec toutes les personnes qui ont participé à l'organisation. Donc, je serai parmi ces personnes pour clôturer l'événement sur des bonnes vibes.
D'accord. Voilà. Donc, on le rappelle, l'Adelph Game Fest se déroule ce week-end, le 7 et 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Et vous trouverez.
Du droit des femmes, excusez-moi.
Vous trouverez tous les liens sur le site de l'Agence française pour le jeu vidéo. Et est-ce qu'on. Non, j'allais vous demander ce qu'on pourrait vous trouver sur certains lives, mais du coup, ça, je le sais déjà. Est-ce que vous avez d'autres lives peut-être à nous conseiller ?
Qui ont lieu ce week-end.
Oui, qui pourraient vous intéresser particulièrement ou si vous avez envie d'en faire la promotion voilà, pour stimuler un peu les viewers.
Pas qui ont lieu spécifiquement ce week-end, mais ce que je peux conseiller, c'est de voir aussi les lives que fait Afrogameuse aussi. Il y a plein de contenus justement avec des personnes justement afrodescendantes qui parlent de leur passion du jeu vidéo, qui parlent de leurs recommandations cinéma, de séries, etc.
D'accord. Merci beaucoup en tout cas.
Merci Daphné, merci Marco, merci Abel. Donc c'est un événement à ne surtout pas manquer pour tous ceux qui sont sur Twitch. Et pour ceux qui n'y sont pas encore, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, dernière escapade musicale. Donc on vous propose d'écouter, alors je vais essayer de le dire, PHNTM d'Abel 31. Je crois que c'est...
La vraie vie c'est pas un phénomène. Tu les rabats, je suis dans la fin quand même. Paye une dernière, elle était random. Paye une dernière, elle était random. Ils vont la grève, ça dure un temps. J'ai fait deux fois la grève, le reste de l'année c'était du printemps. On a tout ce qu'ils veulent, c'est peut-être me voir dans le mal. Je dors jusqu'à ce qu'il pleuve sur la vie face de cave. Des fois j'ai un peu peur, je suis déjà tombé sur la paille. Mania Donna, ça veut plus. Maintenant t'entends ce que j'ai à dire. Papa parle moi, je comprends. Après je dirai, c'est-à-dire. La vie c'est pas un phénomène.
Et c'était PHNTM d'Abel 31. Vous êtes sur Radio Campus Paris et maintenant place à la chronique libre avec Anaïs.
La matinale de 19h.
Bonsoir Alimatou, je vais vous parler du lancement du plan d'action 2026-2027 pour la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. La vie intime, sexuelle et affective, et en particulier des personnes en situation de handicap, est une reconnaissance qui demeure encore très entravée. En effet, elles sont concernées par les enjeux de santé sexuelle et pour y répondre, la ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, Stéphanie Rist, et la ministère déléguée chargée de l'autonomie et des personnes en situation de handicap, Charlotte Parmentier-Lecoq, ont décidé de lancer le 19 février dernier un plan d'action à ce sujet, ainsi que la lutte contre les violences. Tout d'abord, on s'interroge sur l'intérêt d'un plan d'action pour la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. En effet, elles se retrouvent confrontées à de nombreux obstacles dans l'exercice de leurs droits au pluriel et libertés, notamment en raison de l'inaccessibilité aux soins de santé sexuelle, à une exposition accrue aux violences et en particulier les agressions sexuelles, au manque de considération des souhaits de l'autonomie des personnes de certaines institutions et pratiques professionnelles, ainsi que du manque de clarté et d'accès aux informations. De plus, selon une étude de l'ADRES, donc la Direction des recherches, des études et de l'évaluation et des statistiques, les femmes en situation de handicap sont deux fois plus concernées par les violences sexuelles que celles qui n'en déclarent pas de handicap. Face à ces constats alarmants et aux attentes légitimes, une réponse pragmatique est nécessaire, ce qui permettrait une meilleure accessibilité à la santé sexuelle et à la protection des femmes, contre toute forme de violence. Ensuite, une exigence est portée pour un cadre national et international. En effet, le respect de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap s'inscrit dans la loi du 11 février 2025 pour l'égalité des droits et des chances, ainsi que leur participation à la citoyenneté. Aussi, la France s'est engagée à respecter les accords de la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap et des Nations Unies, où selon l'article 16, il est rappelé que toute personne en situation de handicap a le droit de vivre sa vie intime, affective et sexuelle, égale aux autres et sans préjugés ni violence, ni discrimination, et dans le respect de son intégrité et de ses libertés fondamentales. Parlons à présent de l'engagement transversal. Ah, bah c'est tout pour la chronique. Du coup, j'ai transversal qui permet de garantir une mobilisation durable. En effet, ce plan d'action a été élaboré de manière collective, en collaboration avec les associations, les professionnels, les experts, les administrations publiques, mais également avec des personnes en situation
merci
de handicap.
Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Anaïs. C'était la matinale de 19h. Il est 20h. Restez avec nous tout de suite. La suite.
France sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la metteuse en scène et autrice Elsa Grana pour nous parler de sa pièce Papi Quichotte,